VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'Europe est toujours sous le choc et dans les grandes capitales du continent, c'est l'heure des grandes manœuvres sur la procédure de divorce du Royaume-Uni avec l'Union européenne. Idriss Fall.
La chancelière allemande Angela Merkel reçoit aujourd'hui le président français François Hollande et le premier ministre italien Matteo Renzi. Madame Merkel doit aussi discuter séparément lundi avec Donald Tusk, président du Conseil européen, qui doit présider mardi et mercredi un des sommets européens les plus tendus. Le premier ministre britannique David Cameron devrait faire dans la soirée des explications post-mortem. Mercredi, il y aura une réunion dite informelle avec les 27 autres chefs d'État et de gouvernement. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, souhaite que Londres envoie au plus vite la lettre de divorce à Bruxelles. Le Parlement européen tiendra mardi une session extraordinaire. John Kerry, secrétaire d'État américain, s'est invité dans cette crise. Bouleversant son agenda, M. Kerry se rendra aujourd'hui à Bruxelles avant de s'envoler pour Londres.
Afrique maintenant. Dans le centre du Mali, au moins 15 personnes ont été tuées et 46 blessées ce week-end dans les affrontements entre des habitants de deux villages dans la région de Mopti. Les violences ont opposé des paysans de Koussouma et Mougna, près de Djéné, après un litige sur des terres cultivables. Le témoignage de Sékou Traoré, secrétaire général de la commune rurale de Nema Badeya Kafo, dans la région de Mopti.
Le dernier bilan, c'est 15 morts. La cause, c'est un litige français qui date des années 40. Il y a eu plusieurs jugements. Parce qu'ils avaient commencé par le premier instant à Djéné, qui a donné raison à Mouna. Les personnes n'étaient pas d'accord, ils ont interdit l'appel. Mopti a confirmé la décision. D'autres l'ont approuvé en cassation. Le litige porte sur un lieu qu'on appelle Mouna Tientien. Maintenant, le Mouna Tientien, on les a fait savoir que ça appartient à Mouna, mais les gens de Koussouma ont 69 dans l'endroit, ce qui n'a pas plu aux gens de Mouna. Le dernier jugement qui a eu lieu courant 2014, il y avait un juge qui était venu à Djéné de 2008 jusqu'en 2014. Personne ne cultivait l'endroit. Maintenant, l'année dernière, les gens de Koussouma ont eu à cultiver ça. Ce qui n'a pas plu aux gens de Mouna. Cette année, le vendredi soir, il a plu encore. Les lendemains matin, les gens de Koussouma sont sortis pour venir cultiver l'endroit. Entre temps, comme l'endroit est à 100 mètres de Mouna, mais à 11 km de Koussouma, les gens de Mouna sont sortis pour aller trouver celui de Koussouma là-bas. Bon, maintenant, c'est là où il y a eu affrontement. Et malheureusement, on déplore, comme monsieur le président de dire, 15 morts, 46 blessés.
Voilà, on passe maintenant au Nigeria, deux kamikazes présumés ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans deux explosions alors qu'ils tentaient d'entrer dans une mosquée près d'une prière du Ramadan dans la ville de Maiduguri, fief historique de Boko Haram. Et puis au Cameroun voisin, l'Assemblée générale du barreau camerounais vient de publier un rapport dénonçant la situation précaire des droits de l'homme dans le pays. Selon le rapport, il existe de nombreuses obstructions aux libertés d'expression, notamment la corruption et des détentions abusives. Les explications de Maître Simon Pierre Etemi du bureau camerounais, du barreau camerounais.
Nous avons relevé que de nombreux écarts existent encore sur des questions de droit à la vie, des questions d'atteinte à l'intégrité physique, des questions de torture. Nous avons relevé que le problème de la privation de la liberté reste plutôt une grave endémie dans nos milieux de détention. On va en prison parfois pour rien, on y demeure pour rien. Un petit exemple, nous avons relevé que dans plusieurs cas, quelqu'un qui est relaxé ou acquitté aujourd'hui continue à rester en tôle 2 semaines. 3 semaines, on a eu des cas 1 mois plus tard. La première des solutions consiste pour nous à mettre en conformité notre droit interne avec le droit international. Parce que la plupart de ces écarts sont dus au fait que nous n'avons même pas à importer tout ce qu'on a pris comme engagement au plan international. La deuxième chose, c'est qu'on a relevé que l'accès au droit, qui est le fondamental, n'est pas assuré aux Camerounais.
Maître Simon-Pierre Etemi, un membre du barreau du Cameroun. On passe maintenant à la RDC. Les États-Unis continuent de suivre de près l'évolution de la situation politique dans le pays. Washington promet de ne pas en rester aux simples sanctions américaines imposées contre le chef de la police de Kinshasa, le général Célestin Kanyama. Et il pourrait y avoir de nouvelles mesures si le président Joseph Kabila veut rester au pouvoir au terme de son dernier mandat. Écoutons Steve Weissman, ancien responsable à la sous-commission des affaires africaines de la Chambre des représentants des États-Unis et auteur du livre « La politique américaine au Congo, Kinshasa ».
On attend un peu pour voir si Joseph Kabila va changer sa politique, si peut-être il voit que les pressions externes commencent à grandir. Il peut repenser sa politique, se maintenir au pouvoir. On ne l'accepte pas. Le département du Trésor des États-Unis a écrit limité à 2 mandats quand il essaie de continuer après les du mandat, et ça n'est pas acceptable. Si M. Kabila essaie de dire qu'un cour constitutionnel complètement dominé par lui, il a choisi les membres, dit que je peux rester, les États-Unis disent non, nous voulons que vous respectez la constitution lui-même, pas l'opinion des gens que vous avez désignés.
Steve Weissman, auteur du livre « La politique américaine au Congo, Kinshasa ».
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
On reste en RDC suite à une insuffisance dans la fourniture d'électricité par la société nationale. La population congolaise fait une transition écologique sans le vouloir en utilisant l'énergie renouvelable avec des panneaux solaires. Écoutons le reportage de notre correspondant à Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Écoutons Charlie Kasereka.
Être autonome et dépenser une fois pour toutes, c'est exactement ce qui a motivé Emmanuela, mère de 3 enfants et qui utilise l'énergie renouvelable depuis plus d'une année maintenant.
C'était après avoir été déçue par la société qui produit l'électricité à Goma. Ça m'a motivé d'aller vers l'énergie renouvelable. Et depuis que j'ai cette énergie, les enfants sont à l'aise, on charge les téléphones. En plus de cela, ça nous aide trop à protéger l'environnement parce que je n'utilise plus les bois, ça m'aide vraiment par rapport à ce que je vivais avant.
Sur ceux des jeunes étudiants en électronique qui se sont créés des petites entreprises pour fabriquer localement des convertisseurs d'énergie solaire en courant continu, Kambale, surnommé Spray, la vingtaine, est parmi ces étudiants. Il se réjouit économiquement de ce qu'il gagne.
En tout cas, nos convertisseurs se vendent, les gens apprécient notre qualité, notre façon de faire, et par mois on peut vendre un minimum de 4 convertisseurs. Je me retrouve économiquement, mais c'est pas trop facile puisque ça dépend de la connaissance d'une personne à l'autre.
Pour question d'assurance et de sécurité, les ménages devraient approcher les techniciens bien avertis, pense l'ingénieur Seboudjangwe Jean Dédier, enseignant du cours d'électronique à l'université de Goma.
Il ne faut pas seulement voir les systèmes solaires en soi, mais il faut savoir comment installer correctement, parce que souvent les incendies proviennent d'une mauvaise installation qui ne tient pas compte des normes. Les câblages, surtout les sectionnements, souvent ce n'est pas bien choisi en fonction de la charge qui doit être ici. C'est surtout cela qui pose des problèmes.
Dans la ville, des magasins qui revendent des panneaux solaires achetés en Chine et en Europe se multiplient et se frontent les mains. Bibox, une antenne de l'entreprise britannique qui s'est lancée dans cette activité depuis plus de 2 ans maintenant, qui a vu son chiffre d'affaires évoluer. Son gérant Harry Amouli explique ici.
En tout cas, il y a vraiment une masse qui vient. Donc maintenant, par mois, on peut arriver à 50 ménages qui viennent acheter les petits kits. Donc au minimum, celui qui a 50 $ avoir un système solaire. Notre chiffre d'affaires, ça dépend aussi de la satisfaction de la population. Et notre objectif, c'est que tout le monde ait accès à cette énergie. Maintenant, c'est presque les 2/3 de la population qui est servie. Et donc, nous sommes aussi satisfaits aux 2/3.
Assurera la fourniture électrique à seulement 14% de ses citoyens. La RDC dispose du 3e potentiel hydroélectrique au monde, avec ses eaux qui peuvent produire plus de 100 gigawatts, selon les experts à la matière. Mais l'accès à l'électricité reste un problème criant dans ces grands pays de plus de 65 millions d'habitants. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
On passe maintenant au Liban. Une série d'attentats suicides menés par 4 kamikazes a coûté la vie à 5 personnes dans un village à majorité chrétienne dans l'est du pays. Une région troublée en raison de sa proximité avec la Syrie en guerre. Cette attaque est survenue quelques heures après que le groupe État islamique a revendiqué un attentat suicide perpétré en Jordanie à la frontière syrienne qui a fait 7 morts et 13 blessés. La série d'explosions s'est produite avant l'aube à Al-Kar, un village situé dans la région de la Beka, à quelques kilomètres de la frontière. Et pour terminer, le football, le Chili a remporté pour la 2e année consécutive la Copa América face à l'Argentine. Et face à un Lionel Messi incapable de mettre fin à une période de 23 années sans titre. Voilà. Merci.